Bon. Un sujet qu'il faut préciser d'entrée de jeu, mais plutôt le sous-titre. En effet, il pourrait entretenir une équivoque ou favoriser une certaine ambiguïté. Les philosophes savent que l'on ne doit pas mélanger les lumières, les objets formels quo. On ne peut pas poser une question en philosophie et répondre en théologie. Il y a là un dérapage qui n'est pas honnête intellectuellement pour un philosophe réaliste, pour un philosophe thomiste. Qu'est-ce que j'entends donc par ce sous-titre? Le mal question philosophique, ben, c'est assez simple. Vous le savez comme moi, tous les philosophes se sont penchés sur le problème du mal. Tous ont posé cette question. Tous ont essayé d'apporter des réponses. Nous verrons très rapidement les questions, effectivement, que les philosophes se sont posées s'agissant du problème du mal. Néanmoins, pour illustrer notre propos, le thème de ce colloque, j'aimerais montrer qu'aucune des réponses apportées par les philosophes n'est pleinement satisfaisante. Aucune de ces réponses ne comble vraiment l'intelligence. L'intelligence reste comme frustrée par ces réponses purement philosophiques. Je ne parlerai pas des philosophes modernes, je ne parlerai pas des philosophes qui nient le problème du mal ou qui profitent du mal pour nier l'existence de Dieu. Je dirai déjà qu'en philosophie réaliste, chez saint Thomas d'Aquin, le problème du mal ne reçoit pas de réponse satisfaisante, pleinement satisfaisante, au plan simplement philosophique. Il faut aborder cette question sous l'angle théologique pour être, je ne dirais pas pleinement satisfait, mais un peu plus satisfait qu'en philosophie. Ce thème, bien sûr, est un thème classique, la question du mal passionné la pensée orientale. Tous les philosophes se sont posés cette question. Il se trouve que cette année, et c'est ce qui m'a inspiré le sujet que je vais essayer de traiter devant vous ce soir, il se trouve que cette année, la Sorbonne elle-même, en première année de DEUG, propose aux étudiants débutants, dans son UV PH101, je sens qu'il y a dans la salle des gens qui subissent cet enseignement, propose le problème du mal. Et le plan proposé par les professeurs de Sorbonne est le suivant. Premièrement, l'expérience du mal. Deuxièmement, les rapports de Dieu et du mal. Troisièmement, les rapports de la liberté et du mal. L'expérience du mal, c'est-à-dire comment est-ce que le mal est vécu, comment est-ce qu'il est subi. Quels sont les rapports, deuxièmement, de Dieu et du mal? Vous savez comme moi que l'on peut se poser la question de savoir s'il y a un Dieu qui cause le mal, s'il y a un Dieu mauvais, un Dieu méchant, un principe du mal. C'est ce que les manichéens ont soutenu, et saint Augustin a été influencé pendant une bonne partie de sa vie par ce système. D'autres se disent, lorsque l'on se penche sur le problème de Dieu et de son rapport au mal, on se dit tout simplement, si Dieu existait, le mal ne devrait pas exister parce que Dieu est bon. S'il y a du mal, c'est que Dieu n'existe pas parce qu'un Dieu bon ne permettrait pas cela, ne tolérerait pas cela. Et donc on fait de cette question souvent une preuve de l'inexistence de Dieu. Voltaire a excellé dans ce genre. Camus, un peu plus proche de nous, a aussi dit qu'il ne pouvait pas croire en l'existence d'un Dieu qui permettait la mort des petits-enfants. Le troisième point du plan qui est proposé en Sorbonne est celui qui pose le problème de la responsabilité humaine. Est-ce que l'homme libre est responsable du mal? Et là intervient la notion de faute et la notion de péché. Ce plan me fournit mon introduction. En effet, je voudrais avec vous ce soir me poser la question, est-ce que, en restant au plan purement philosophique, les professeurs de Sorbonne peuvent répondre aux questions qu'ils posent dans cette unité de valeur PH101, qui a pour thème le mal? Est-ce qu'ils ont le droit de poser cette question sans proposer à leurs étudiants un éclairage théologique. Est-ce que les étudiants qui suivent ce cours en Sorbonne ne seront pas légitimement frustrés? Est-ce qu'ils sortiront de ce cours à la fin de l'année avec une certaine satisfaction intellectuelle? Est-ce qu'ils auront tout compris? Je n'insiste pas plus sur ce programme de Sorbonne. Je pourrais aussi vous lire la bibliographie qui est proposée. Nous la verrons au travers des quelques propos que je vais tenir. Le mal, tout d'abord, curieusement, a été bien envisagé par un auteur qui a été cité au cours de cette journée, auquel on a attribué le qualificatif de sceptique à juste titre. Je veux parler d'Anatole France. Anatole France, qui n'a pas la foi, a très bien vu ce que c'était que le mal, ce que c'était que la souffrance, ce que c'était que la douleur. Il a bien posé le problème. On trouve ce texte dans le Jardin d'Épicure. C'est la force et la beauté des religions, dit-il, d'enseigner à l'homme sa raison d'être et ses fins dernières. Quand on a repoussé les dogmes, il ne reste plus aucun moyen de savoir pourquoi on est sur ce monde et ce qu'on est venu y faire. Le mystère de la destinée nous enveloppe tout entier dans ses puissants arcanes. Et il faut vraiment ne penser à rien pour ne pas ressentir cruellement la tragique absurdité de vivre. C'est là, c'est dans l'absolue ignorance de notre raison d'être qu'est la racine de notre tristesse et de nos dégoûts. Le mal physique, poursuit Anatole France, le mal physique et le mal moral, la misère de l'âme et des sens, le bonheur des méchants, l'humiliation du juste, tout cela serait encore supportable si l'on en concevait l'ordre et l'économie, et si l'on y devinait une providence. Le croyant se réjouit de ses ulcères. Il a pour agréable les injustices et les violences de ses ennemis, ses fautes même, et ses crimes ne lui ôtent pas l'espérance. Il y a là en filigrane cette référence à saint Augustin que nous rappelait Madame Millet-Gérard ce matin. Saint Paul dit tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, et saint Augustin d'ajouter même les péchés. Et mon voisin de ce matin à ma gauche disait et surtout les péchés. Mais dans un monde où toute illumination, poursuit Anatole France, dans un monde où toute illumination de la foi est éteinte, le mal et la douleur perdent jusqu'à leur signification et n'apparaissent plus que comme des plaisanteries odieuses et des farces sinistres. Je remercie Anatole France de me donner le premier point de cet exposé. Le mal est incompréhensible, le mal est un mystère, il peut même devenir un problème insoluble. Il peut même devenir une manifestation de l'absurdité si l'on n'a aucune idée de la providence, si l'on n'a aucune idée d'un ordre et d'une économie. Cela devient une absurdité, et je reprends l'expression même d'Anatole France, quand on a repoussé les dogmes. Plus près de nous, un auteur peu connu, une jeune fille, morte à l'âge de 21 ans, a vécu le tragique du mal, l'absurdité de la souffrance à laquelle on ne peut donner aucun sens. Il s'agit d'une jeune fille qui a écrit ses mémoires à l'âge de 15 ans, qui souffrait d'anorexie mentale à 13 ans. Je vais parler de Valérie Valère. Voici ce qu'elle dit, et là nous sommes dans un monde parfaitement clos, où aucune ouverture vers une quelconque transcendance ne se manifeste. « J'essaie de retrouver un monde, dit-elle, je regarde tous les chemins avant de choisir le mauvais, mais rien n'est indiqué, et personne ne veut me tendre la main, ou plutôt je ne veux en prendre aucune. Une angoisse me serre le cœur, ici la solitude est moins belle, car elle est fausse, tout en ayant l'apparence d'être véritable, plus douloureuse. » Vivre, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas si cette fois-ci j'ai trouvé la vraie route. J'ai erré dans les rues sans cesse et sans but. J'ai marché des jours entiers sur leurs pavés d'indifférence à la recherche de quelque chose de différent. Je me suis perdu dans cet immense labyrinthe sans même penser à retrouver mon chemin, car je n'en ai pas et je n'en aurai jamais. J'ai tout enterré et recouvert d'un voile de tristesse opaque qui me cache une partie du monde. Et elle termine, errance à travers une nouvelle prison où les gens parlent comme au mur. Tout m'agresse par son indifférence, je ne trouve plus la vraie raison des choses, rien n'a de sens. Inutilité profonde et accusatrice. Je me fonds dans la solitude et la tristesse. Désœuvrement, je ne connais plus l'insouciance. La lumière me déplaît et je déteste le soleil. Où suis-je donc passé, moi ? Ce texte, évidemment, d'un pessimisme noir, ne contient pas la petite lueur de lucidité, excusez le pléonasme, que l'on trouve chez Anatole France. Anatole France sait bien que le mal devient absurde, que nos souffrances n'ont aucun sens dès qu'on a repoussé les dogmes. Ici, l'on a affaire à une jeune fille de ce XXe siècle finissant qui ne peut pas faire allusion à un dogme qu'elle ignore complètement. Et pour elle, le mal est quelque chose de terrible, de redoutable. C'est peut-être ce néopaganisme, cette néo-barbarie dont nous parlait M. Vien ce matin. Les philosophes se sont penchés sur ce problème. Ils ont essayé de lui donner un sens parce qu'en effet, il n'y a pas de satisfaction intellectuelle tant que l'on ne peut pas établir les causes d'un phénomène. Le mal, nous n'allons pas en parler de façon abstraite. Si j'ai tenu à vous lire ce témoignage, celui d'une anorexique de 13 ans qui écrit ses mémoires à 15 ans et qui meurt à 21 ans, c'est pour vous montrer que le mal est un problème personnel, existentiel, ça n'est pas une abstraction. Nous avons beaucoup de mal à comprendre ces choses-là parce que justement nous employons un terme, un substantif, et nous avons tendance à substantifier le mal. Mais le mal, ça n'existe pas, il y a des mots très particuliers, très concrets, très personnels, dont chacun d'entre nous peut souffrir. Pour arriver à comprendre ça, il faut donner un sens. Et les scolastiques savent que pour donner un sens, il faut déterminer la cause efficiente et la cause finale pour les causes extrinsèques, la cause matérielle et la cause formelle pour les causes intrinsèques. Si l'on ne trouve pas de cause efficiente, si l'on ne trouve pas de cause finale, le phénomène restera inexplicable, mystérieux et plus que mystérieux, absurde. On ne pourra pas le comprendre. Quelqu'un qui a excellé dans ce genre, c'est Sartre. Sartre, qui nous a été cité comme littérateur ce matin, qui en philosophie est un sophiste redoutable. En effet, c'est lui qui isole les faits de leur cause efficiente, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, dans le langage courant, la cause qui engendre les faits. Qui isole le phénomène, donc, de sa cause efficiente et qui l'isole de sa cause finale, de son but. Lorsque l'on a un fait brut, ainsi isolé de la cause et de son but, on a un phénomène absurde. Vous savez tous la définition, ou plutôt la description existentialiste de la messe que l'on trouve sous la plume de Sartre dans la Nausée. Un homme boit du vin à la lueur des bougies devant des femmes agenouillées. On ne sait pas qui est cet homme, on ne sait pas ce qu'il y a transsubstantiation, on ne sait pas. Tout est décrit dans sa matérialité et c'est absurde. Et ça n'a aucun sens et l'on ne comprend rien. On se demande que font ces pauvres femmes agenouillées, pourquoi se mettent-elles à genoux pour voir un homme boire du vin et pourquoi cet homme éprouve-t-il le plaisir pervers de boire du vin devant des femmes agenouillées et qui plus est à la lumière des cierges. Le mal, donc, devra recevoir une explication, et cette explication, il faudra la chercher, donc, du côté des causes. Au préalable, un scolastique va essayer de déterminer la nature du mal. Qu'est-ce que le mal ? Nous voyons Anatole France nous donner différentes sortes de mots, différentes sortes de souffrances. Nous voyons Valérie Valère nous décrire Un mal qui est surtout celui de la solitude et du sens de la vie que l'on ignore complètement. Quelle est la définition que donnent les scolastiques du mal? C'est une privation. L'un d'entre vous, au cours de la journée, a eu l'occasion de le dire, je crois que c'est Madame Millet-Gérard. Le mal n'est pas une entité, le mal n'est pas une réalité, c'est une privation, c'est la privation d'un bien. La privation, c'est l'absence d'une perfection due dans un sujet apte. L'exemple classique, c'est la cécité. La cécité est un mal parce que le sujet qui est privé de la vue a droit à cette perfection, il ne l'a pas, il en souffre, c'est normal. Cette cécité est un mal. En revanche, elle n'est pas un mal pour un homme que de ne pas voler, parce que ce n'est pas une perfection due. Et ce n'est pas non plus un mal pour une pierre que d'être aveugle, parce que la pierre de soi ne comporte pas cette faculté de voir. Le mal est donc une privation, non pas une simple négation d'un bien qui ne serait pas dû à un sujet, non, c'est une négation d'un bien dû. Le mal n'est pas, le mal est un non-être, il vient parasiter un sujet qui lui est, c'est pourquoi les manichéens ont tort, il n'y a pas de mal personnifié, il n'y a pas de mal hypostasié, il n'y a pas de mal absolu, il y a toujours un mal qui vient ronger un bien. On peut prendre un exemple de mal physique, cette fois-ci la lèpre. Il est évident que la lèpre vient ronger un sujet qui existe et qui existe bien et qui est bien. La lèpre absolue, ça n'existe pas. Si le lépreux était complètement rongé, s'il n'existait plus, on ne pourrait même plus parler de lèpre. Donc le mal qui est privation réside toujours dans un sujet bon. On ne peut donc pas imaginer un mal absolu. Cherchons alors les causes. La cause formelle, là vous me permettrez, les ecclésiastiques dans cette salle vont sourire de pitié, puisque je vais faire un rappel évident pour eux. La cause formelle est une cause intrinsèque. On prend l'exemple toujours, n'est-ce pas, de la statue. On vous dit que pour comprendre une statue, il faut déterminer ces quatre causes. Sa cause formelle, c'est le buste de M. l'abbé Baillot, par exemple. C'est une réponse du berger à la bergère. Sa cause matérielle, c'est le marbre. C'est le marbre. Sa cause efficiente, ce sera le sculpteur, en l'occurrence M. Brancourt, qui veut évidemment faire un buste à M. l'abbé Baillot. Et puis sa cause finale, c'est le but pour lequel le buste est fait, eh bien, c'est pour la louange, la gloire de M. l'abbé Baillot. On me placera, non pas dans mon bureau, mais carrément dans l'entrée, dans la cour intérieure, mieux encore. Donc, vous voyez, cause matérielle, ce dont la chose est faite, cause formelle, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, cause efficiente, c'est l'agent, c'est celui qui cause vraiment, qui sculpte en l'occurrence, et cause finale, c'est le but, c'est ce pourquoi on a fait cette chose. Alors cherchons dans le mal, quelle est la cause formelle? Il n'y en a pas. Le mal, qui est du non-être, n'a pas de cause formelle. Donc, on ne pourra pas expliquer le mal par sa cause formelle. En revanche, il a une cause matérielle. Quelle est cette cause matérielle? C'est le sujet bon qu'il vient justement ronger, parasiter. Quelle est la cause efficiente du mal? Alors là, nous retrouvons le sujet qui nous est proposé par la Sorbonne. Est-ce Dieu qui cause le mal? Est-ce l'homme qui cause le mal? Est-ce la liberté humaine? Est-ce un Dieu mauvais qui cause le mal? Et pourquoi y a-t-il du mal? Quel est le but? À quoi ça sert le mal? Quelle est l'utilité du mal? Autant nous comprenons tout de suite l'utilité d'un buste. En revanche, nous ne voyons pas du tout l'utilité du mal. À quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert d'être malade? À quoi ça sert d'être seul? Et là, ces questions sont posées de façon tragique par cet auteur mineur dont je vous lisais l'extrait de ses mémoires. La cause efficiente, Bien sûr, il faut dire que l'homme cause le mal. Mais saint Augustin, en jouant sur les mots comme il sait le faire, mais de façon juste, dit que l'homme est plus cause déficiente que cause véritablement efficiente. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vouloir le mal pour le mal. Il ne peut pas vouloir le mal pour lui-même. S'il commet le mal, c'est parce qu'il veut un bien. Malheureusement, ce bien est lié à un mal. Et voulant ce bien, il veut le mal qui est lié à ce bien. Nécessairement, fatalement, librement, avec sa responsabilité. Et donc, il est coupable. Mais ce qu'il veut, ça n'est pas le mal, c'est le bien. Et tout ce qui accompagne ce bien, y compris le mal. Donc, cause déficiente, dit saint Augustin, plus encore que cause efficiente. Quelle est la cause finale? Quel est le but? À quoi ça sert? Les philosophes, et ici je vais citer le chanoine Vernot qui s'est intéressé à ce problème et qui a fait une bonne synthèse du problème. La cause finale, pour un philosophe, elle n'est pas évidente à établir, néanmoins, on essaye de trouver quelques raisons. Il dit, cherchons d'abord pour le mal physique. À quoi ça sert? Et le mal physique a, semble-t-il, un certain rôle biologique, le rôle de sonnette d'alarme. D'abord, la souffrance physique avertit l'organisme de la présence d'un danger, le rôle d'excitation ensuite, car elle pousse à y parer. Si la brûlure des tissus était agréable, par exemple, quel ravage dans le monde des vivants. Dans le cas spécial de l'homme, non pas simplement la souffrance physique, mais maintenant la souffrance morale. À quoi ça sert le mal? Et là, nous aurions peut-être un début de réponse au problème, il faut l'avouer, que pose cette affirmation de saint Augustin. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les péchés. À quoi ça sert les péchés? À quoi ça sert? On verra que la réponse ne peut pas être simplement philosophique. Le rôle moral que peut avoir la faute, le mal, la souffrance ici, elle peut être en effet, dit Vernot, l'occasion, le point de départ et la matière d'un perfectionnement moral par l'apprentissage et l'exercice de certaines vertus. Le courage, par exemple, ou la patience ne se conçoivent que sur la base d'une sensibilité à la souffrance. Mais évidemment, ce domaine, rien n'est automatique. Le bon usage de la sensibilité, c'est la liberté de chacun. Et elle peut être tournée en détriment, révolte, égoïsme, tout autant qu'en progrès. Et c'est vrai. Et c'est vrai que l'on peut se révolter contre le mal. C'est bien ce que semble indiquer Valérie Valère. Elle n'accepte pas, elle n'assume pas, comme on dit aujourd'hui. Elle se révolte, elle se cabre, elle se crispe. C'est injuste, ça n'a pas de sens. Et elle n'en donne pas un. Elle ne voit pas une finalité. Elle ne voit pas à quoi ça peut servir. Donc, elle ne cherche pas à justifier ce mal. Il péche lui-même, est-ce qu'il peut servir? Au plan philosophique, c'est très difficile à expliquer. Le mal moral est assurément le moins justifiable de tous. Il est pure absurdité devant la raison, dit Vernot. Et pourtant, l'on peut après coup lui reconnaître un rôle bienfaisant. Lequel l'humilité, la prudence, la charité même trouvent dans le repentir un aliment. Mais le repentir, c'est clair, suppose une faute préalable, c'est-à-dire il faut pécher pour pouvoir être vertueux après coup. On a dit de quelques saints comme Marie-Madeleine, saint Augustin ou même saint Pierre qu'ils ne seraient pas montés si haut s'ils n'étaient pas partis de si bas. Alors péchons gaiement et convertissons-nous. La philosophie, vous le sentez, tâtonne. Il n'y a pas de cause formelle, c'est-à-dire donc que nous ne pouvons pas trouver l'essence même du mal. C'est du non-être. Il n'y a pas de quidité. Donc on ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est du non-être? Ah, c'est pas une réponse. On ne peut pas non plus se satisfaire de la cause matérielle, puisque l'on vous dit « la cause matérielle, elle est bonne, et c'est justement le mal qui vient la ronger, là, comme un cancer ». La cause efficiente, saint Augustin nous dit qu'elle est en réalité plus déficiente qu'efficiente. La cause finale, elle n'est pas pleinement réconfortante. On vous dit, il faudrait presque pécher pour pouvoir ensuite tirer de ce péché un bien. Non. C'est pourquoi Vernot est obligé de conclure ce chapitre en disant, dans sa recherche des causes du mal, la raison n'est pas satisfaite. Elle n'est pas non plus frustrée. Elle approche un tout petit peu d'une explication, elle cerne un petit peu le problème, elle n'est pas frustrée, mais elle n'est pas pleinement satisfaite. Le mal n'est pas rationnel, car il n'est pas susceptible d'une explication complète. Il n'est pas non plus irrationnel, car il est explicable jusqu'à un certain point. Un peu plus loin, Vernot dira, le mal est envisagé par le philosophe comme un fait, simplement. On le prend comme tel, un fait. Mais on n'arrive pas à l'expliquer. On peut, lorsque l'on passe de la tentative d'explication métaphysique à une approche morale, on peut toujours, avec les lumières de la simple raison, toujours au plan purement naturel, on peut essayer de voir quelle attitude pratique on doit adopter face au mal. La raison, dit Vernot, demande d'abord qu'on admette en général et pour ainsi dire en principe le fait du mal. Donc il est rationnel d'admettre le mal. Pourquoi ? Parce que si on ne l'admet pas, on va se révolter. Et la révolte ne sera pas rationnelle ici. Il dit que cette révolte sera stérilisante, qu'elle correspond au fond à un refus du monde tel qu'il est, puisqu'il y a du mal dans le monde, et bien il faut accepter ce mal, parce qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec du mal. Donc, admettre, presque se résigner. Ensuite, dit-il, la raison demande bien sûr qu'on évite le mal, on essaye de ne pas commettre ce mal. On essaye aussi de ne pas trop le subir. On peut aller un petit peu plus loin, dit-il, toujours avec les lumières de la raison, toujours au plan de la morale naturelle. On peut, dit-il, essayer d'accepter, supporter ce mal. Il y a là, évidemment, un relent de stoïcisme. Il va un petit peu plus loin que le stoïcisme et il dit ici, il faudrait peut-être essayer d'utiliser ce mal. Comment l'utiliser ? Alors je lis ici, simplement en l'acceptant. Accepter le mal, c'est utiliser, et par là même enlever au mal quelque chose de sa malice, sa pointe pourrait-on dire. Et comment l'accepter, est-ce l'utiliser ? En se conquérant soi-même, se vaincre soi-même, cher aux Romains. En se conquérant soi-même, grâce à lui, par la patience, par le courage, et en s'affirmant ainsi concrètement supérieur. Transcendant au monde qui nous accable. Croyez-vous vraiment qu'un philosophe en herbe, en première année de deuil, se satisfasse de toutes ces réponses, au plan spéculatif comme au plan pratique? J'essaie de revenir à Valérie Valère. Croyez-vous que ces paroles puissent avoir sur elles l'effet d'une consolation philosophique chère aux anciens? Croyez-vous qu'une jeune fille qui meurt à l'âge de 21 ans dans des circonstances mystérieuses puisse vraiment se satisfaire de ce genre de pseudo-réponse ? Non. Il faut donc envisager, après avoir vu les réponses que la philosophie apporte, ou tente d'apporter, il faut envisager les réponses du plan théologique cette fois-ci. Et je partirai d'une citation de saint Augustin, qui dit tout simplement quelle est la cause du péché, quelle est la cause, pardon, des maux, du mal en général. Les maux ne sont pas naturels, tout ce qui est appelé mal est péché ou peine du péché. Ici il distingue, Thomas reviendra sur cette distinction par la suite, il distingue entre le péché et la peine, conséquence du péché, la culpe et la pena. Les maux ne sont pas naturels, tout ce qui est appelé mal est péché ou peine du péché. Autrement dit, c'est l'homme lui-même qui est responsable de tous ces maux. L'origine de ceux-ci est dans son comportement religieux, dans son attitude à l'égard de Dieu. Ils proviennent de sa révolte contre Dieu. J'entends vos dents grincer, Vous vous dites, mais c'est trop fort. Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui meurt du cancer dans un hôpital comme la cause, l'artisan de son malheur. Non, ça n'est pas ce que saint Augustin veut dire. Lorsque saint Augustin dit « les maux ne sont pas naturels, tout ce qui est appelé mal et péché ou peine du péché », il dit bien « peine du péché », c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir des peines qui viennent du péché. Vous allez me dire « alors, c'est entendu, ce cancéreux qui meurt dans des souffrances atroces, il n'est peut-être pas auteur d'un péché, mais il subit une peine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son péché pour qu'il subisse cette peine-là » Alors il faut faire intervenir le péché dont nous sommes tous frappés, tous marqués, le péché originel. Pour saint Augustin, l'explication du mal est à prendre, au sens théologique, dans sa cause efficiente, du côté du péché originel. C'est là qu'il faut chercher le péché et les conséquences du péché, la mort. Sont charitables, mes confrères, en leur disant, en leur rappelant les trois adages qui permettent de mieux comprendre le péché originel, ou plutôt les conséquences du péché originel, les effets de la faute d'Adam dans l'humanité. L'homme, n'est-ce pas, et c'est une paraphrase un peu de la parabole du bon samaritain, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il se fait dépouiller, n'est-ce pas, par des voleurs. Et il est laissé là, roué de coups, à demi-mort. En latin, parce qu'on a le sens du paradoxe, on dit non pas à demi-mort, mais semi-vivus. Il est là, à demi-vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que le bon samaritain n'intervienne, avant que notre Seigneur lui-même n'intervienne, cela veut dire effectivement que l'homme est déchu, il descend. Il descend de Jérusalem, à Jéricho. Il est dépouillé de la grâce, il est dépouillé des dons préternaturels, spoliatus gratuitis. Il n'est pas mort, la nature reste intacte, natura mansit integra. Mais il est blessé, c'est-à-dire que toutes ses facultés sont blessées. Son intelligence est blessée par l'ignorance, sa volonté est blessée par la malice. Son concupiscible est blessé par la concupiscence, son irascible est blessé par la faiblesse. Il a donc cette quadruple blessure. Eh bien, c'est là, dit saint Augustin, qu'il faut chercher tous les maux. C'est ici qu'il faut voir la cause de tout. Est-ce que saint Augustin est seul à avoir dit cela? Bien sûr que non. Je ne vais pas prendre les commentaires de tous les pères de l'Église. Je voudrais simplement, après Pascal Puni, voir avec vous Pascal Vengé, je voudrais vous donner ce que Pascal dit de cette explication-là, de l'explication de saint Augustin. Il dit « On ne peut rien comprendre au problème du mal dans l'humanité si l'on ne veut pas se pencher sur ce mystère, sur ce dogme qu'est le péché originel. » Parce que de fait, le péché originel n'est pas une vérité d'ordre naturel, c'est un dogme révélé, c'est un dogme d'ordre surnaturel. Voici. Dans l'édition de Brunswick, ce sont les numéros 434-435. Pascal dit que l'homme est incompréhensible à lui-même s'il ne veut pas, s'il n'accepte pas de se reconnaître comme l'héritier d'Adam, et donc marqué par ce péché originel. Si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité et de la félicité avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu, il n'aurait aucune idée de la vérité ni de la béatitude. Il est donc manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus. Chose étonnante, cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la transmission du péché, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Pascal donc pense que nous ne pouvons pas nous comprendre nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre les maux qui nous affligent et les maux qu'on nous inflige si nous ne comprenons pas ce que c'est que le péché originel. Sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Il y a là comme un écho, enfin, c'est un petit peu anachronique ce que je vais dire, mais comme un écho à ce que je vous disais au début de ce colloque, c'est le reproche terrible que Bossuet fait aux libertins. Lorsqu'il dit que les libertins, parce qu'ils ne veulent pas accepter les mystères, sombrent dans des absurdités. Ils n'arrivent plus à rien comprendre parce qu'ils ne veulent pas accepter ce mystère. Et de fait, il y a une attitude que nous verrons très rapidement, il y a une attitude qui est celle, il faut l'avouer, de l'université contemporaine, laïque, c'est de refuser ce mystère et donc de rendre incompréhensible tout. Incompréhensible, c'est-à-dire insensé, c'est-à-dire absurde, c'est-à-dire isoler le mal de sa cause efficiente et aussi de sa cause finale. Mais je n'ai pas parlé de la cause finale. Pour saint Augustin et pour toute la tradition catholique, quelle est la cause finale? Quelle est la cause du péché? À quoi ça sert le péché? Pourquoi le péché originel et pourquoi tous les péchés actuels qui dérivent du péché, les péchés personnels qui dérivent du péché originel? Pourquoi toutes les peines? Pourquoi tous les maux? Pourquoi toutes les maladies qui dérivent? Eh bien, là, il faut penser à l'exultet, au felix culpa, pour l'incarnation rédemptrice. Voici ce que dit Verneau, que je citerai très rapidement. La raison du péché, si l'on peut dire, la raison du péché, pourquoi est-ce que Dieu a permis le péché originel? C'est parce que il devait y avoir cette incarnation rédemptrice. Tout de suite, disons-le, nous sommes en théologie. Nous n'apportons pas des raisons déterminantes, mais des raisons de convenance. Nous ne disons pas l'incarnation rédemptrice s'explique nécessairement par le péché originel. Nous ne sondons pas les voies de Dieu. Elles restent impénétrables. Mais il faut avouer, je voudrais vous citer, au terme de cet exposé, ce qui ne saurait tarder, patience, un texte de Jacques Rivière qui montre combien ce mystère, loin d'être absurde, loin d'être ténébreux, projette une lumière prodigieuse sur notre humanité et donne un sens aux mots qui nous frappent. Si donc, dit Verneau, Dieu a permis le péché, dirons-nous en second lieu, c'est pour l'incarnation et la rédemption. Nous touchons ici où Dieu a permis le du mal. Nous ne pouvons comprendre que Dieu ait permis le péché d'Adam et toute la suite des maux qui en est résulté que s'il avait l'intention de le réparer au cas où l'homme viendrait à tomber et de le réparer d'une manière plus excellente que s'il ne s'était produit. On cite ici traditionnellement deux textes, l'exultète de la nuit pascale, Felix culpa, quid talem actantum meruit habere redemptorem, et puis aussi l'offertoire de la messe, n'est-ce pas, lorsque le prêtre verse la goutte d'eau, où il est question de création admirable, mais de recréation plus admirable encore, cette recréation, c'est l'incarnation rédemptrice. Je dis bien que nous n'apportons ici que des raisons de convenance parce que nous ne pouvons pas pénétrer les voies de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous pouvons simplement constater un excès d'amour de la part de Dieu lorsqu'il envoie son Fils pour nous racheter. Cette explication, et j'en arrive à mon troisième et dernier point, cette explication a été rejetée. Rejeté en particulier par les existentialistes. Tout d'abord, de façon intelligente, parce qu'il peut y avoir une intelligence dans la sottise, par Camus. Camus voit cette explication que nous venons de donner, de façon, j'allais dire, tellement sommaire qu'elle frise la caricature. Cette explication, donc, qui veut que la cause finale soit à chercher du côté de l'incarnation rédemptrice et la cause efficiente du côté du péché originel, cette explication est rejetée par Camus dans l'homme révolté, qui ne veut pas de l'incarnation rédemptrice, qui ne veut pas de la souffrance, qui ne veut pas de la croix, qui ne veut pas de la passion. Que dit-il? Il dit que c'est l'amère intuition du christianisme, c'est l'injustice généralisée. Elle est satisfaisante pour ceux qui développent un sentiment un peu morbide de la souffrance. Seul le sacrifice d'un Dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de l'innocence. Seule la souffrance de Dieu et la plus misérable pouvait alléger l'agonie des hommes. Si tout, sans exception, du ciel à la terre est livré à la douleur, un étrange bonheur est alors possible. Camus n'a pas compris qu'il n'y a pas d'injustice, que l'homme est véritablement coupable de ce péché originel, et aussi véritablement coupable de ses péchés personnels, et qu'il fallait véritablement réparer, qu'il fallait racheter cette humanité, pécheresse, coupable, et qu'il fallait donc un Dieu qui prenne sur lui les fautes des hommes pour payer, pour réaliser cette justice. Il ne le voit pas, il ne veut pas le voir, et dans un autre texte, qui est le mythe de Sisyphe, il dit « Il ne faut pas concevoir le mal comme les catholiques l'ont fait, il faut lui laisser son côté absurde, son côté insensé, et qu'il y a une joie dans cette contemplation du mal qui n'a pas de sens, dans cette contemplation du mal qui n'a aucune signification. » Il décrit là le bonheur de Sisyphe. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là, son destin lui appartient, son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les mille petites voix émerveillées de la terre s'élèvent, appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins, il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, dans ce léger pivotement, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort, ainsi persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain. Aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche, le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau, mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. C'est extraordinaire cette phrase, n'est-ce pas? C'est l'absence de foi qui soulève les montagnes. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Un écho de Camus plus sulfureux, c'est Sartre. Sartre, lui, dans L'existentialisme est un humanisme, montre qu'il ne faut pas donner de sens au mal. Il refuse, bien sûr, l'explication théologique, et même, il faut avouer, il s'interdit toute explication philosophique. Il refuse l'explication théologique parce qu'il sait que s'il l'accepte, il faudra admettre l'existence de Dieu. Cette cause efficiente, cette cause finale, mène nécessairement à l'existence de Dieu. Voici ce passage. Dostoïevski avait été écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Si d'autre part Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Vous apercevez certainement, pour ceux d'entre vous que je n'ai pas réussi à endormir définitivement, qu'il y a là un début d'autodivinisation. Cette autodivinisation est confirmée dans le passage immédiatement suivant. Si j'ai supprimé Dieu, le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et par ailleurs, dire que nous inventons les valeurs ne signifie pas autre chose que ceci. La vie n'a pas de sens, a priori. Avant que vous ne viviez la vie, elle n'est rien. Mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Sans doute, il choisit sans se référer, cet homme existentialiste, il choisit sans se référer à des valeurs préétablies, mais il est injuste de le taxer de caprice. Disons plutôt qu'il faut comparer le choix moral avec la construction d'une œuvre d'art. C'est un démiurge que nous voyons apparaître. Ce refus de donner un sens au mal est en réalité un refus de Dieu. Et quand Dieu n'existe plus, c'est que l'homme est devenu Dieu. Je voudrais, en terminant, vous relire ce que je lisais au début de cette journée, ce texte de Bossuet, qui montre, effectivement, que lorsque l'on a, comme disait Anatole France, repoussé les dogmes, ou plus, comme disait Bossuet, lorsque l'on ne veut pas suivre les mystères, on tombe dans l'absurde. Mais si on tombe dans l'absurde, ce n'est pas par un goût masochiste du néant, c'est parce que l'on espère bien devenir Dieu, ne pas se laisser dominer par un destin dont nous ne serions pas les maîtres, par une providence que nous ne guiderions pas, par des décrets que nous ne dicterions pas. Vous voyez comme moi que je cherche ce texte, voici. Des libertins, Bossuet dit la chose suivante. Les absurdités où ils tombent, en niant la religion, deviennent plus insoutenables que les vérités dont la hauteur les étonne. Et pour ne vouloir pas croire des mystères incompréhensibles, ils suivent l'une après l'autre d'incompréhensibles erreurs. Qu'est-ce donc après tout, messieurs, qu'est-ce que leur malheureuse incrédulité, sinon une erreur sans fin, une témérité qui hasarde tout, un étourdissement volontaire, et en un mot, un orgueil qui ne peut souffrir son remède, c'est-à-dire qui ne peut souffrir une autorité légitime. Ne croyez pas que l'homme ne soit emporté que par l'intempérance des sens. L'intempérance de l'esprit n'est pas moins flatteuse. Comme l'autre, elle se fait des plaisirs cachés. Elle s'irrite par la défense. Ce superbe croit s'élever au-dessus de tout et au-dessus de lui-même quand il s'élève. Celui semble s'élève au-dessus de la religion qu'il a si longtemps révérée. Il se met au rang des gens désabusés. Il insulte en son cœur aux faibles esprits qui ne font que suivre les autres sans rien trouver par eux-mêmes. Et devenu le seul objet de ses complaisances, il se fait lui-même son Dieu. Je vous annonçais une citation qui sera ma conclusion. C'est ce texte de Jacques Rivière. Jacques Rivière, qui s'est converti en captivité, comme vous le savez, a eu des phrases extraordinaires sur le mystère. Parce que j'ai bien conscience de vous laisser sur une certaine insatisfaction. Il est entendu que la raison n'explique pas le mal. Nous n'arrivons pas à l'expliquer. Nous arrivons simplement à cerner, à partir du dogme du péché originel et du dogme de l'incarnation rédemptrice, nous arrivons à cerner ce mystère, sans plus. Est-ce qu'un mystère est source de frustration ? C'est souvent ce que les rationalistes pensent. Je voudrais simplement vous dire ce que disait Jacques Rivière. Le mystère n'est pas l'absurde, ça n'est pas vague, ça n'est pas le brouillard, ça n'est pas la confusion. Rivière reprend sans le dire, mais je ne pense pas sans le savoir, Rivière reprend l'affirmation de Pascal et il dit, est-ce qu'on peut véritablement affirmer que l'on ne comprend pas ce sans quoi tout est incompréhensible ? Voici ce passage. Les mystères étant de l'inexplicable ne se prouvent pas directement, mais ils se prouvent par tout ce qu'ils expliquent. Celui qui les a pris une fois pour vrai est bientôt accablé par l'épreuve. Elles lui viennent de partout. C'est le monde entier qui se met à vivre autour de lui, en lui, tel qu'il l'annonçait et l'impliquait. Pour faire comprendre ce que je veux dire, il faudrait prendre des cas précis, un exemple, comme celui du péché originel, et montrer l'extraordinaire moisson de preuves qu'il fait éclore et récolte, dès qu'on consent seulement à le prendre avec soi et à marcher à sa lumière. On voit dès lors combien il est puéril d'objecter aux chrétiens qu'il ne comprend pas ce qu'il croit. On voit combien les mots comprendre, ne pas comprendre sont relatifs. Sans doute, il ne pourrait pas démontrer sa foi. Bien sûr, la foi ne se démontre pas. Il aura peut-être du mal à faire cadrer cette foi avec les exigences générales de la raison, mais est-ce qu'on peut dire qu'on ne comprend pas ce sans quoi tout le reste vous apparaît incompréhensible? Et nous ne nous comprenons pas nous-mêmes si nous ne savons pas que nous sommes pris entre le péché originel et l'incarnation rédemptrice. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne comprend pas ce qu'on trouve tous les jours réalisé, incarné dans les événements extérieurs et intérieurs, présent en eux comme une lumière qui les éclairerait du dedans? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne comprend pas ce qui est la véritable lumière éclairant toutes choses en ce monde? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne le comprend pas simplement parce que cette lumière ne se laisse pas analyser et réduire aux lois du mécanisme? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne la comprend pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement qu'en la faisant voir, parce qu'elle est la source et l'émanation, au lieu d'être le reflet et le produit? Voilà. Je pense qu'il me fallait terminer. Je pense qu'il me faut terminer. Je pense que nous pouvons dire que l'universitaire catholique, s'agissant de ce problème du mal, comme d'autres problèmes, est celui qui a le sens du mystère. On considère souvent les universitaires comme des êtres boursouflés d'orgueil, bedonnant d'autosatisfaction. Et l'on a tort, parce que nous savons que Dieu existe, parce que nous croyons en lui, et parce que nous savons qu'il est incompréhensible, mais que sans lui, tout est incompréhensible, nous avons le sens du mystère. Et c'est pourquoi l'universitaire, comme le disait très justement M. l'abbé Bayot et tous les autres intervenants de cette journée, l'universitaire, authentiquement universitaire et réellement catholique, est humble. Il sait qu'il y a du mystère, il sait qu'il ne sait pas tout. Voilà.
Monsieur le recteur, je vous remercie beaucoup de cet exposé qui nous fait toucher au fond à l'un des problèmes les plus actuels. Nous sommes à une époque où la plupart des gens ont évacué la notion de mystère, et où, au fond, sous l'influence de la philosophie et surtout de la vulgarisation de certains nombres d'idées simples, l'homme se considère comme étant son maître, je dirais presque comme étant son Dieu. Alors, il est absolument incompréhensible de voir dans l'existence la sienne et celle des autres, ce qui explique le mal, ce qui explique la souffrance. Il n'a plus de référence, il ne se réfère qu'à lui-même. Par conséquent, il est un isolé dans un monde absurde. Et c'est seulement s'il accepte le mystère, s'il accepte la révélation, s'il accepte le poids du péché originel et s'il accepte la vérité de la rédemption, qu'il arrive à voir plus clair. Mais alors, il faut qu'il s'arrache à tout le monde contemporain, qu'il s'arrache à tout ce qui est la vulgate, si j'oserais dire, du monde moderne, pour se retrouver dans une minorité croyante, agissante et souffrante. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont quelques explications à demander à M. le recteur?
Monsieur.
Je ne serai pas l'avocat de Sartre, rassurez-vous, mais je vais vous frapper par cette phrase de Sartre, qui est peu connue, je crois, et qui tente à prouver d'une part, vous ne savez pas d'accord avec moi, qui tente à prouver d'une part qu'il n'isole pas toujours la cause de son but, D'autre part, je ne sais pas si ça lui est une circonstance atténuante ou une circonstance aggravante, mais voici la phrase en question, de ça, donc, l'avortement est un meurtre métaphysique. Dans la bouche de ça, c'est tout de même extraordinaire.
Vous allez me pardonner, l'abbé Bayeux dira que j'ai une spiritualité dominicaine, il y a du Torquemada dans mon regard. Je pense, monsieur, que la circonstance est aggravante, parce qu'elle prouve que Sartre est lucide. Et c'est ce que l'on voit, nous en parlions, monsieur Lanavert et moi, tout à l'heure. On ne peut pas dire, il y a des gens qui ignorent le catholicisme et qui, j'allais dire, pêchent par omission. J'ai le sentiment, et plus que le sentiment, la conviction que Sartre sait ce à quoi il s'oppose. Et je ne pense pas qu'il soit innocent du tout. Il y a des gens, effectivement, qui veulent ne pas s'opposer, ou le problème du mal, qui ne veulent ne pas chercher la cause, mais ils sont dans une atmosphère un petit peu délétère, ils n'arrivent pas à formuler les questions qui devraient être les leurs. Ils sont parfois prisonniers d'idéologies qui les empêchent même de réfléchir. Je pense là à une citation de Kessler qui rapporte un propos de Camus. Camus se trouve, du temps où il était communiste, avant d'être gaulliste, Camus se demande, ou plutôt demande à Moscou, dans une réunion d'intellectuels communistes, si ça existe, il se demande, mais quel est le sens de la souffrance? Quel est question un peu extravagante devant tous ces apparatchiks, et on lui dit, mais non, il n'y a pas à chercher, mais il dit, mais tout de même, la souffrance du pauvre garçon qui se ferait écraser par une voiture, qu'est-ce que c'est? Autrefois, au Moyen-Âge, on donnait une explication. Alors la réponse, là, ça n'est pas la réponse théologique à un problème philosophique, c'est la réponse communiste à un problème philosophique. C'est dans un système parfaitement rationalisé des transports, il n'y a pas d'accident et les enfants ne meurent pas écrasés. Alors là, je suis plein d'indulgence. Là, vraiment, je pense qu'il y a une cécité affligeante, incurable, et donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais malgré son strabisme, Sartre, lui, n'était pas frappé de cécité. Il voyait les choses, il les voyait plus à gauche qu'à droite, mais il les voyait. Et c'est pourquoi il ne faut pas être indulgent. Je pense qu'il était lucide.
Y a-t-il encore quelques questions?
J'avais appris à l'époque, quand on parle de ça, qui donne cette lucidité et qui est vraiment terrifiante, que Dieu existe ou n'existe pas, peu m'importe, je suis celui qui refuse Dieu. C'est, je crois, la pire lucidité qu'on puisse exprimer par cette phrase.
Oui, exactement. Oui. Il est tout à fait conscient.
J'hésitais quant à moi, justement, parce que ça reste de la foi, les mouches sont une pièce passionnante à faire avec les élèves de lycée. La dernière scène où Jupiter au mégaphone expose en quelque sorte le règne catholique. Je suis Dieu et au reste des fonds d'un seul âme. Je sais très bien que tu es Dieu, mais je ne sais pas. Le Sartre est inexcusable, et c'est bien pour ça qu'elle a été obligée aux intellectuels, elle n'aurait pas pris un imbécile. Comme modèle pendant 30 ans, 40 ans, c'est hallucinant. Puisqu'on parle de Sartre, c'est une toute petite chose, un peu en marge. J'ai l'occasion un jour de rencontrer Simone de Beauvoir pour lui parler d'Algérie, sur laquelle j'ai étendu dans un nombre de livres, pas la force des choses, etc. Et elle m'a montré une chose que, pour qu'il ne comprenne pas, elle n'a jamais mis le pied en Algérie. Jamais. 4 jours en 1932, c'est tout. Alors, quand on a quoi avec écrit, n'est-ce pas, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, on ne peut même pas. On ne peut pas tout même admettre que je ne sois pas partisan. On n'y a jamais eu les pieds.
Oui.
On imagine dans la 10 ans qu'il y a tout un guerre basse de reçoit, qu'il y a des voyages directs, pas du tout.
Madame.
Juste un petit commentaire, mais il n'y a pas tellement de temps, la radio de l'éphémère ministre a rappelé qu'il fallait ce matin à propos du Téléthon, quelqu'un a dit, à propos du directeur, du président de l'association de Mozart, ils sont rares ceux qui puisent leur énergie dans le refus de malheur qu'ils n'acceptent pas. Donc c'est la même chose, la révolte contre Dieu amène à trouver une énergie, alors qu'on nous dit tous les saints qu'au contraire, on trouvait beaucoup d'énergie en acceptant totalement la souffrance, quelle soit.
Exactement, c'est tout le sens du débat qui a lieu actuellement sur l'euthanasie. Comme la souffrance n'a pas de sens, il ne faut pas souffrir. Donc il faut abréger les souffrances et abréger la vie. Il n'y a pas de souffrance qui soit liée aux souffrances du Christ. Il n'y a pas de sens. Comme la croix n'existe plus, comme il n'y a plus de sacrifice rédempteur, la souffrance n'a pas de sens. Il faut en finir vite. Et le plus confortablement possible.